Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Moment Donné, l'Apéro Data. Nous sommes le 24 janvier, j'en ai de grève comme ces deux derniers mois en fait, donc bien pénible pour les Parisiens. Et aujourd'hui, on a retrouvé le quatuor de choc, donc je suis Jean-Marc Sevin, nous avons Clément Tailleur autour de cette table.
Salut Jean-Marc.
Maxime Poulain.
Salut.
Et Rémi Ferreira.
Salut.
Voilà, qui ont bravé les problèmes de transport pour venir ici enregistré au CRI en ce jour. On va faire un épisode vraiment détendu. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit pas trop sérieux. En fait, on a eu la remarque que dès le départ, on vantait ça comme l'apéro data où on avait parlé de data tranquille, mais ça pouvait paraître parfois un peu coincé. Donc là, on va faire tout l'inverse. On va vraiment, on part sans fil conducteur et on va prendre l'apéro ensemble, discuter data et on va voir où ça va nous emmener. Voilà. Est-ce que vous allez bien, messieurs, déjà,
bon,
ce
ouais,
début
va,
d'année
moi,
2020
ouais.
Ça
écoute,
va. On fait avec les grèves.
Hein. Ah, toi, ça va, t'es motorisé.
Non, on se rend pas compte parce que c'est aussi les galères en moto. Hein. Tu sais, les motos, elles passent sur le trottoir. Maintenant, bien sûr, je fais pas ça, mais ça reste un merdier de ouf. En vrai, on se rend pas compte.
T'évites les vélos, tu sauves des vies tous les jours.
C'est... Ah, ça, c'est bien dit. Ouais, merci. Non, en vrai, en moto, c'est une galère. En voiture, j'en parle pas. Et en métro, il y en a pas, donc il n'y a pas de galère, finalement, comment on appelle ça. Non, alors par contre, on a la chance, et c'est peut-être l'occasion d'en parler, de bosser dans des boîtes, a priori, dans le digital, tout du moins. Ce qui fait que la naissance du télétravail, tout ouais. du moins, l'apothéose de du télétravail, c'est une super...
Ouais, mais ouais, j'avais eu la remarque moi, d'un pote qui m'avait dit que... Enfin, il avait connu, à l'époque où il était étudiant, la grève de 95...
C'était combien de temps 95 Excuse-moi, en 95
Ouais, bon,
pas
ça va.
Bon, c'est pas.
Allô. Et je sais plus combien de temps ça avait duré, mais c'était dans la même période. Ça avait duré moins longtemps.
Ok.
Mais c'était... moi, je me souviens pas. Mais ça avait été bien compliqué. Le Paris, c'était vraiment bloqué. Alors que là, tu te rends compte qu'effectivement, de par le télétravail, de par le covoiturage, de par les moyens comme le vélo, les trottinettes, tout ça, les gens s'organisent plus facilement. Et même si c'est pénible... c'est mieux géré et tu peux quand même arriver à aller bosser et à pas trop bloquer.
C'est peut-être pas le sujet, mais vous avez fait comment, vous ?
J'ai marché.
Ouais.
Moi, au début, j'étais en télétravail, les deux premières... Ouais, une ou deux premières semaines.
Ça passe bien, c'est accepté, genre ?
Ouais, bah, y avait pas le choix, tout le monde était en télétravail.
Mais c'était pas un peu long, pour toi ?
De quoi ? De venir, après ?
Non, parce que je me dis... Enfin, moi, j'ai pas du tout fait de télétravail, mais du coup... Si je l'en avais fait, je pense qu'au bout d'un certain temps, je me serais un peu ennuyé chez moi, quoi.
Non, parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire la grève juste avant les vacances de Noël. Du coup, en vrai, ça faisait une semaine vacances. Où j'étais okay. en télétravail, après j'étais en vacances. Et après, quand je suis revenu, j'ai eu la chance d'avoir des RER. Enfin, moi, mon trajet, il n'a pas été tant impacté que ça. Bon, sauf certains trucs, mais ça allait, quoi.
Est-ce que les téléconsultations ont été... Il y a eu un pic de téléconsultations du fait des problèmes de transport ?
Du fait des problèmes de... Non, c'est pas un secret. Je suis incapable de dire s'il y a eu un pic ou pas. Pourquoi ? Parce qu'heureusement, et c'est une bonne nouvelle, on est en constante croissance. Donc, tu sais, il y a une espèce de biais d'évolution qui fait qu'on sait pas si ça va mieux ou pas à cause de la grève. En tout cas, la grève se terminant, on est toujours en croissance. Je crois pas qu'il y ait de pic particulier, non.
D'être passé de combien à combien dans ta boîte déjà ?
Dans ma boîte, on est passé entre... On est passé en mai, on était une vingtaine. Mai 2019, je précise. Et là, en janvier, on est 110. Ça va vite.
Ouais.
Ça va vite. Mais ouais, le nombre de téléconsultations augmente aussi. C'est sans secret. Mais non, nous, il y avait possibilité de télétravailler aussi. Ça peut être c'était un frein pour beaucoup parce qu'il y a des métiers aussi dans le digital qui nécessitent une présence dans les bureaux. Mais en tout cas, en data, ça va.
En fait, ça dépend. Moi, je suis
c'était
dans une
l'aparté
team,
métro.
Genre, si t'es dans une... Tu sais, t'as la théorie du pizza team. Je sais pas si vous connaissez.
Ouais.
T'es censé nourrir ton équipe avec une pizza, c'est ça ?
Ouais, en gros, faut pas avoir une team de... Ouais, je crois que c'est tout pizza team. Jean-Marc me fait deux avec ses doigts. Et oui, faut pas que t'aies une équipe de plus de deux pizzas. Donc, en gros, ça fait quoi ? Ça fait... 8 personnes.
Ça dépend qui t'as dans l'équipe aussi. Ouais. Et bon. Oh, c'est que ma pizza.
On va dire 8 personnes. Et je pense que moi, dans mon équipe, on n'est pas loin d'être... on est sur le seuil, un peu la borne haute. Et du coup, il y avait des moments où sur le projet où j'étais un peu perdu parce que tu sais plus ce que lui il a fait à droite à gauche. Et du coup, tout le monde en télétravail, c'est pas hyper productif.
Tu sais même pas qui bosse du coup, non?
Bah, tu sais qui bosse, mais enfin, on fait des délits le matin au téléphone, mais c'est pas. Enfin, tu peux pas aller voir la personne si t'as une question et tout. Moi, je trouvais ça beaucoup moins productif.
Alors, pour autant, moi, j'ai un pote qui bosse chez Amazon, aux US, et il m'expliquait que son agenda, en fait, il est rempli de micro-réunions, donc des trucs d'une demi-heure qui s'enchaînent, avec des fois plusieurs réunions dans la même journée, avec certaines personnes communes à ces réunions.
Ouais.
Et en fait, alors qu'ils sont dans le même building, ils bougent pas, ils font tout en visio.
C'est pour gagner du temps ?
Ouais.
Ok.
Ouais. Bah, tu sais que Jeff Bezos, lui, c'est un peu le gourou de l'optimisation. Donc, si tu peux limiter ça, je pense que c'est bien accepté dans la culture. Quoi.
Ah, du coup, il n'y a aucune réunion physique, quoi.
Enfin, il y en a peut-être, s'il a 8 réunions dans la journée, en fait, il va faire 8 trucs en visio, alors qu'il pourrait faire en physique peut-être 2. Mais okay. Ça ne se fait pas comme ça.
Je suis pas convaincu.
Ouais, moi non plus.
Mais ça, c'est très français, le côté réunion, pour le coup.
Oui, ça, c'est vrai. Ça.
De faire des réunions ?
Ouais, de faire des réunions parfois pour rien du tout.
Ouais.
Tu veux juste en faire une pour que tout le monde soit autour de la table, mais en fait, la plupart des gens, ça ne va à rien. Moi, la dernière fois, j'ai été au UK et ça n'avait rien à voir. Genre, les réunions, elles duraient 30 minutes, tu finissais au bout de 25. Tu avais exactement un plan d'action à la fin, tu savais ce que tu voulais faire. La personne, elle te répondait, elle devait te donner un truc, elle te le donnait une heure après. Et tout va beaucoup plus vite, et pourtant ils travaillent moins longtemps.
C'est vrai que c'est un grand mal, la réunion qui se termine et tu sais pas ce qui s'est passé. Enfin, t'as pas de plan d'action derrière, et c'est juste, bon, on s'organise un petit point dans une semaine pour...
Il y en a plein, on est comme ça.
T'as des boîtes où à la fin des réunions, ils font des scores, entre 1 et 5. Et genre,
fait ça, je crois,
d'ailleurs. Et genre, tu votes à la fin de ta réunion. Et je crois que 3, c'est la réunion, elle était pile au niveau de ce que t'attendais. Et si tu mets en dessous 3, ça veut dire que t'as perdu ton temps. Si tu mets au-dessus, ça veut dire que t'as...
Ah, ça me plaît bien, ouais.
C'était mieux que ce que tu attendais.
Octo fait ça au meet-up, je crois, non ? Vous n'avez pas vu un meet-up où Octo, à la fin, typiquement, il pose une question, voilà, est-ce que vous avez trouvé ce meet-up intéressant ? Et l'idée, c'est tu lèves ta main en l'air et tu montes
ton nombre
de doigts. Ok.
Non, je fais quoi ? Il compte les doigts des personnes qui lèvent la main.
Tu fais une moyenne, un peu,
ouais,
doigt levé.
À la louche.
Ouais. Bon, bah, 5. Très bien.
Merci, les gars.
On va parler un peu data. Je vais vous dire un de mes souhaits pour 2020 en fait, dans tout ce qui est data. J'aimerais bien que les gens qui sont dans l'info fassent un peu moins de data scientist bashing. On en a même fait dans ce podcast, je me souviens très bien, c'est Rémi qui l'a fait, disant que quand on recevait le code d'un data scientist, eh ben, c'était pas beau. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis juste que ce n'est pas la généralité. Et moi, personnellement, je m'oriente vers plus de rigueur dans mon code, vers plus de réflexion avec tout ce qui est mise en prod. Je pense vraiment à tout le pipeline qu'il y a derrière, je ne m'arrête pas juste à la constitution d'un notebook mal fichu pour faire mon modèle. Et j'ai l'impression que j'entends de plus en plus souvent des gens qui voient les data scientists comme des gens qui font des micro-trucs dans un notebook dégueulasse, sans penser à ce qu'il y a derrière, et après, les développeurs récupèrent ça, ils doivent se démerder. C'est pas la généralité. Et moi, j'espère qu'en 2020, ça va un peu moins se dessiner comme ça.
On parle chacun. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas sûr que ce soit pas la généralité. Enfin, je mets quand même des doutes sur le fait que même dans des sociétés qui peuvent être très fortes technologiquement, il n'y ait pas ce genre de personne, justement, de data scientist qui va faire dans son coin son algo, alors qu'il peut être aussi magique qu'il veut, mais le mec, il va te donner un notebook dégueulasse et après, c'est à toi de te démerder, quoi.
En fait, je suis d'accord avec vous deux. Moi, je dirais que le problème, il est au-dessus encore. En fait, selon moi, le problème, c'est la définition des métiers. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que c'est aussi quelque chose dont on a parlé. Mais pour moi, le problème, c'est qu'il y en a qui vont croire que le data scientist, en effet, il doit bosser que sur des notebooks et lui-même va penser à qu'il doit faire ce job-là. Puis il y en a d'autres qui pensent que le data scientist, au contraire, il doit avoir une horizon bien plus élargie, etc. Et c'est ce problème de définition aujourd'hui. Mais même... qui pour moi inclut ce data bashing, ce data scientist.
Non, parce que même cette question de définition des métiers, en plus, elle... tu peux éventuellement justifier que dans une petite boîte, le data scientist est peut-être embauché pour faire un peu tout le pipeline, et donc il ne peut pas se permettre de s'arrêter au notebook, et il doit faire tout seul, ou avec éventuellement un collaborateur, mais c'est une équipe réduite. Donc là, pour le coup, tu ne peux pas t'arrêter au notebook, il faut que tu fasses tout correctement.
Ouais, mais est-ce qu'il existe
mais attends, je vais finir. Mais si tu vas dans une grosse boîte où c'est plus segmenté, pour le coup, si tu es dans un département où tu es juste un data scientist ou une équipe de data scientist, mais que tu ne parles pas avec les gens qui vont derrière avoir ce que tu produis, ce n'est pas professionnel non plus. Donc, dans un cas comme dans l'autre, tu ne peux pas t'arrêter à juste tu livres ton modèle et ton notebook et tu t'arrêtes là. Ce n'est pas possible. Tu dois prendre en compte ce qu'on va en faire. Donc pour moi, si tu t'arrêtes à ton notebook, c'est que tu manques de professionnalisme.
Je suis d'accord, ouais. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui pensent comme ça. Ouais, et qu'il y a des métiers appelés data engineers qui sont en fait des data scientists cleaning.
Ouais.
C'est vrai. Moi, j'irais plus loin que le notebook. En fait, c'est pas tant le notebook qui me gêne, parce qu'en vrai, t'en fais pour tes explorations et tout ça, c'est un super outil. Mais par contre, c'est plutôt la façon dont tu conçois ton code, la façon dont tu dis « Ok, je vais utiliser cet algorithme-là plutôt que celui-ci. » Si tu n'as pas en tête que bah, en fait, cet algorithme-là, il faut qu'il soit utilisé par quelqu'un à la fin, tu peux te permettre de faire tout et n'importe quoi. De te mettre un algorithme de complexité, je ne sais pas moi, n exponentielle, enfin exponentielle de n plutôt, et il va jamais converger ton truc, et mais c'est pas grave parce que dans la théorie c'est censé être le truc optimal, et de toute façon c'est ça la réponse, la vraie réponse. Et donc c'est pas forcément un notebook, ça peut être un code, mais sur un algorithme pas du tout optimal, ou sur des façons de le découper qui sont pas du tout utilisables après. Et ça dépend vraiment de l'équipe où tu vas aller en fait. Il y a des, moi je vois, enfin j'ai dans les connaissances que j'ai vraiment les deux types. T'as des gens qui sont parfois tout seuls et du coup ils sont un peu livrés à eux-mêmes et du coup ils font ce qu'ils pensent être bien, mais vu qu'il n'y a personne qui les challenge, ben en fait tu sais pas si ce que tu livres c'est bien. Ou t'en as des autres qui eux sont dans des vraies équipes avec des vrais guidelines et tout ça, et là ça va. Et t'en as des autres encore, du coup je dis qu'il y en a deux mais en fait il y en a trois. T'en as des autres encore qui sont dans des vraies équipes mais avec des guidelines qui sont fausses parce que peut-être le lead il était déjà au début livré à lui-même et avec des mauvaises pratiques, tu vois. Et c'est pas tant le notebook, c'est plus ouais, vraiment comment tu codes de façon générale qui peut être un frein, qui peut être le data scientist bashing, comme tu l'appelles.
Je sais pas, moi, tu vois, on a aussi parlé, on a entendu parler du data ops. Tu vois, la personne qui va assurer, c'est, quelqu'un peut le définir exactement ou pas?
Bah, c'est un DevOps pour la data.
Ok, ouais. Merci.
Ouais.
DevOps, c'est une philosophie.
Non, mais il a des connaissances approfondies dans les outils de DevOps spécifiques à la data. Je pense à Airflow, ce genre de choses.
Tout ce qui est mise en prod d'algorithmes, je pense.
D'algorithmes de data, mais aussi de pipeline, data engineering.
Ok. Et donc, c'est peut-être compliqué de trouver quelqu'un qui maîtrise et l'aspect data science, et l'aspect data engineering, et l'aspect data ops.
Il n'a pas maîtrisé tout.
Oui. D'accord. Mais tu es bien d'accord que si tu travailles... Donc, admettons que tu aies ces trois profils, avec trois personnes différentes, chacun ne peut pas bosser dans son coin, en silo, et après donner son livrable et la personne qui l'a sur la machine se démerde.
On est tous d'accord sur ça.
Donc on est bien d'accord que si tu es un data scientist professionnel, tu es censé savoir parler avec des gens qui vont aller plus loin dans la chaîne de production, et donc savoir ce que tu dois leur livrer, avoir les bonnes pratiques ou apprendre les bonnes pratiques pour pouvoir échanger au mieux avec eux et que le projet il avance mieux.
Ouais, carrément.
Or, l'image que j'ai aujourd'hui, c'est que tu as une espèce de clivage entre le côté matheux, data science, où on a l'impression que c'est les gens effectivement qui sont détachés de la prod, et le côté plutôt dev, DevOps, data engineer, qui eux se disent bah, je reçois le truc dégueulasse et je dois me démerder avec.
Moi j'ai aussi cette image.
Ouais, ouais bah, carrément.
J'ai peut-être une piste.
Mais est-ce que c'est un biais ou est-ce qu'elle existe vraiment?
Non, elle existe.
Je pense qu'elle existe, mais c'est pour ça que je dis, c'est vraiment personnel. Pour 2020, j'espère que l'image va se corriger parce que moi je me reconnais pas là-dedans et j'ai l'impression que l'image progressivement du métier que je fais, c'est le côté bah tu travailles comme un cochon.
Moi, j'ai peut-être une piste
pour expliquer. Et ça, ça me saoule. Tu veux que l'image change, mais par le fond, finalement. C'est-à-dire que les data scientists cochons, entre guillemets, ne le soient plus.
C'est ça.
Ok. Pas que l'image en elle-même.
Ouais,
parce mais... qu'on a conscience que ça existe quand même.
Bah, y a ça, mais il y a aussi le côté, même le côté contre-productif ou pas constructif des personnes qui vont faire du data scientist bashing. C'est-à-dire, dire qu'un data scientist, il te livre un truc dégueulasse, c'est peut-être un fait. Pour autant, tu ne dois pas dire, travaille comme un cochon. Tu dois apprendre à ces personnes-là à mieux travailler.
Mais du coup, j'ai essayé d'en placer une tout à l'heure, mais c'était un peu chaud. En fait, peut-être que ça vient du fait que la data science, c'est un truc qui est assez récent dans la plupart des boîtes. On va dire, allez, ça a 2, 3, 4 ans max. Du coup, tu as eu beaucoup de profils juniors qui sont arrivés. Et par expérience, quand je vois des étudiants en data science avec qui j'ai travaillé, et quand je vois des étudiants qui sont plutôt d'école d'ingé, genre software engineer, data engineer, tu les appelles comme tu veux, quand je vois typiquement un étudiant, il sort d'école, j'en ai vu de très très bonnes écoles, top tier en France.
Cite.
J'ai vu Centrale Paris, j'ai vu même Télécom, NSAI, et sûrement d'autres que j'ai plus en tête. Enfin, j'ai fait pas mal d'écoles. Et quand je vois ce qu'ils apprennent à l'école, c'est souvent très théorique et ils apprennent très rarement. Ils apprennent plutôt le côté algorithmique, le côté mathématique, etc. Mmh. Ils apprennent rarement le côté bon code que tu peux apprendre dans une école d'ingé où tu vas devenir un software engineer. On va t'apprendre, ça c'est un serveur, ça c'est un client, tu as un back-end, tu apprends du web, tu vas apprendre plein de trucs comme ça. Et du coup, ça va te former sur ce qui est bien et pas bien en termes d'infra. Chose que tu n'auras pas forcément vu si tu fais une nouvelle école en data science. Et du coup, tu arrives sur le marché, tu es junior, tu vas dire « Ok, moi j'arrive, je fais des notebooks ou je fais des petits fichiers Python. » Et en fait, c'est en prenant l'expérience, en devenant plutôt senior, que tu vas apprendre ce côté qui est hyper important de craft. Et du coup, vu qu'il y a un gros...
Qu'est-ce que le craft ?
Qu'est-ce que le craft ? Ça, tu veux mettre dans les...
Cadeaux.
Le craft, c'est les bonnes pratiques de code, on va dire. C'est un code qui est robuste, qui scalera. Enfin, où tu es sûr, une fois que tu l'as bien fait, tu n'auras pas trop d'embêtement. Pour pas dire d'emmerde. Voilà, je l'ai dit, c'est bon. Et je pense que c'est un peu ça. Les profils juniors, il y a une grosse différence de niveau en termes de coding entre les deux profils. Et peut-être qu'il y a une grosse vague de juniors ces dernières années.
Après, est-ce que c'est pas un petit peu nous aussi qui sommes biaisés par le fait que justement nous, on ait fait ces écoles plutôt orientées informatique à la base et que derrière, on a apporté ce côté mathématique. Et donc nous, on a la vision du data scientist qui doit justement à la fois avoir ce côté avoir ce côté maths et également ce côté mise en prod, dev, etc. Que la réalité, c'est finalement pas forcément ça, en fait.
Honnêtement, moi, le premier, quand j'ai commencé à bosser, ce que je livrais, c'était pas dingue. Hein.
Mais ça, après, c'est n'importe qui sort d'école, quand t'as pas d'expérience. Oui.
Mais c'est un truc que j'ai appris rapidement. Et je me mets pas dans la team des gens qui faisaient direct du beau et du... Enfin, je pense peut-être que cette team, elle n'existe pas. Mais non, je pense pas. Enfin, je pense pas que le fait que j'ai fait ces deux types d'école, ça influe sur ma théorie.
Ok.
Pas d'avis.
Je suis en pleine réflexion.
Ouais.
Est-ce qu'on est biaisé finalement ? T'as raison, mais j'essaie de prendre la position inverse. T'es recruteur dans une équipe data assez classique. T'as deux profils assez différents. Le matheux qui va te faire des notebooks et c'est tout. Et le tech qui va un peu toucher à tout, mais qui va pas forcément choisir le meilleur algorithme.
Mais en fait, c'est peut-être ça aussi le problème. C'est que les entreprises, elles sont directement mis à segmenter en fait les deux jobs en disant d'un côté toi t'es très matheux, tu vas faire de la data science, et de l'autre côté tu vas faire toi t'es très data engineer, tu vas coder et t'es...
parce que c'est la réalité.
Toi tu vas faire de la recherche et toi tu vas faire des applis.
Ouais, c'est ça, alors qu'au final moi je suis pas persuadé que ce soit la meilleure façon d'organiser une équipe data par exemple. Donc c'est finalement en fait à la base, depuis que finalement ces jobs sont sortis, on s'est dit ah non, c'est pas du tout la même chose, c'est deux équipes segmentées. Du coup t'as plein d'entreprises qui sont arrivées et qui ont dit ok, nous on recrute que des... Je vais exagérer, mais que des chercheurs en maths d'un côté et que des très très bons devs de l'autre. Et du coup, finalement, ces deux ont beaucoup de mal à communiquer, alors que c'est finalement pas forcément en tout cas de mon point de vue, la meilleure chose à faire.
Alors, est-ce que tu crois que c'est lié à l'organisation ou est-ce que c'est la philosophie de tes personnes. C'est-à-dire que si t'es une brutasse en maths et que t'as été recruté parce que sur ce critère-là, est-ce que tu penses que ta culture fait que tu vas finalement, la mise en prod, c'est pas quelque chose que tu vas aimer, que tu vas considérer dans ton métier, et tu seras pas du coup moteur pour aller voir les personnes qui vont s'occuper de la mise en prod, tu vas pas faire l'interface?
Moi j'aurais tendance à être curieux et justement à m'intéresser à un peu tout, parce que, et pas m'arrêter justement à juste dire ah bah voilà, moi j'ai fait mon meilleur algo et tiens débrouille-toi, mais justement être un peu, on va dire, proactif et aller voir comment ça se passe derrière, quoi, pour comprendre. Après, est-ce que tout le monde fait ça?
Ouais, je pense qu'il y en a pas mal.
J'espère, quoi. Parce que sinon, même en tant que job, je pense qu'il y a un moment où tu es un peu quand même... si tu fais que des maths, en tout cas, moi, ça me passionnerait pas, quoi.
Ça te fait chier, voilà. Ouais,
surtout que, des algos, j'imagine que tu peux peut-être en inventer autant que tu veux, mais il y a quand même un moment où les problématiques en face vont certainement se répéter et tu vas finalement pas avoir non plus, à moins que tu changes très souvent de travail. Mais si tu restes dans la même entreprise... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, j'imagine pas que tu vas avoir 300 millions de problématiques sur lesquelles tu vas pouvoir sortir ton propre algo toi-même, etc. Donc, je pense que tu vas quand même assez vite tourner en rond, quoi.
Mais surtout quand le mec en question, à savoir le data engineer ou le data scientist un peu plus tech, fait un métier hyper proche du tien et de ce que tu délivres. À la limite, déjà, on est tous un peu intéressés par ce que vont faire les équipes, je sais pas, des sales, des marketing, on pose des questions. Et quand le mec il récupère ton algo, évidemment, j'imagine de savoir ce qu'il en fait, quoi.
Bah, carrément.
Je sais pas, je le vois comme ça. Ça me paraît évident aujourd'hui que les deux camps aient à travailler ensemble pour ne faire... Enfin, ça fait con, on dirait une conclusion de Disney, ce que je veux dire. Pour ne faire qu'un.
Parce que... Ouais, non, mais en vrai, moi, je suis d'accord. Enfin, pour moi, c'est ça. Et finalement, je me demande si c'est pas ça, en fait, ce que vous voulez dire machine learning engineer. Enfin, juste faire l'intersection, t'as tes deux cercles et juste tu fais l'intersection et en fait, c'est ce gars-là.
Je crois que c'est, en l'occurrence, c'est ça. Hein.
Mm. Ah bah, carrément. Oui.
Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir, en termes d'organisation par exemple, du coup, deux équipes un peu segmentées ou finalement recruter des machine learning engineers, quoi, qui vont te faire un peu les deux.
Tu parlais de data ops, et pour moi, le data ops, il rentre aussi dans machine learning engineer aussi.
Enfin, ouais.
Si, okay. Parce que c'est ce mec au milieu.
Ouais, après, peut-être qu'il a quand même plus certaines connaissances vraiment en ops
que data encore.
Mais je suis d'accord que ça peut rentrer dedans. Mais il y a quand même peut-être des trucs un data ops par rapport à un vrai DevOps ou par rapport à un machine learning engineer plutôt.
Il est censé quand même plus. J'ai pas la notion que, par exemple, bon, peut-être je dis une belle bêtise, mais pour mettre un truc en prod, si t'as quelqu'un derrière toi qui est capable de gérer ton infra, t'as pas besoin d'être hyper calé là-dessus, tu vois. Typiquement. Je sais pas, pour faire du Docker, tu vois. T'as pas besoin d'être...
On dit pas faire du Docker, on dit la petite baleine.
La petite baleine.
Mais après, le DevOps, pour moi, il va toucher à l'infra.
Sécurité, ouais, c'est pour moi le DevOps.
Il va toucher à l'infra, mais c'est pas à toi de la monter de A à Z, tu vois.
Bah, la montée, non, mais à partir du moment où t'interagis avec, il faut quand même que t'aies une connaissance sur l'infra.
T'as une connaissance, mais pas hyper... t'as pas besoin de deep dive dedans.
Non, oui et non. Enfin, après,
tu vois, typiquement, moi, je sais qu'une question d'entretien d'embauche pour un data engineer, c'était c'est quoi la vitesse où tourne un disque, je sais pas quel SSD, tu vois. T'as besoin de savoir ça, tu penses, pour être machine learning engineer. Même en vrai, bon, t'as peut-être pas besoin de savoir ça pour être data engineer.
Pour data engineer, je me pose la question.
Mais bon, je sais pas, je me souviens plus de la boîte où c'était le cas, mais là encore moins, quoi.
Ouais, c'est un peu poussé, mais en soi, data engineer, tu vois des flux passer de données, du coup. Ça me paraît pas... Enfin, après, la question n'est pas forcément ouf, mais... Enfin, en vrai, ça me paraît pas con si tu sais ça, tu vois.
Je dis pas que c'est
en tant que data engineer,
je dis juste après, que le machine learning engineer, ça le concerne encore moins, tu vois, ce genre de questions, que le data engineer.
Oui. Parce que c'est au milieu entre les deux, quoi.
Exactement.
Mais après, oui. Enfin, ça en revient après toujours au même.
On revient à la discussion des métiers.
Ouais.
C'est un bordel. Et c'est un problème. Est-ce qu'il y a d'autres métiers aujourd'hui, je sais pas, le développeur, le front, le back, qui sont aussi différents et aussi... difficilement segmenté, aussi différent selon les boîtes, parce que là on est en train de dire ok, le data scientist dans une startup X est hyper différent du data scientist dans une ETI Y, et est-ce que ça existe dans les autres boulots, ça, de tech?
T'as le full stack, tu vois, en web, genre il fait tout.
Full stack, ouais, c'est le couteau suisse.
D'accord. Non, je pense que c'est lié aussi à l'émergence de ces métiers, quoi, et de ces technos, ça avance vite, donc les métiers se précisent, se spécialisent, et même si tu prends juste le data scientist tel qu'il était défini il y a 3-4 ans Et la réalité du marché maintenant est différente. Et je suis persuadé que dans 3-4 ans, on avait déjà discuté de ça, tu auras des data scientists qui seront spécialisés sur des domaines d'application. Parce que ça sera devenu tellement poussé, tu ne pourras plus trop être généraliste, sauf si tu es lead ou manager. Mais...
Bon, c'est en train d'arriver déjà. Enfin, moi, j'ai regardé un peu. Je vois quelques offres passer. Il y a spécialisé en NLP, spécialisé en computer vision.
Ça, c'est en techno, mais tu peux même avoir des spécialités par domaine d'application, spécialisé en finance, spécialisé en médecine.
Oui, ouais, carrément.
Aussi, comme tu as des fronts spécialisés en librairie, framework.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais.
Les bacs, pareil. Ouais. À voir.
Et du coup, ça me permet de faire une petite passerelle sur est-ce qu'en 2020, vous avez des technos ou des choses que vous voulez apprendre? Parce que j'ai fait une petite promo, nous sommes le 24 janvier et aujourd'hui c'est la journée de l'éducation et nous lançons au CRI le truc qui s'appelle Learning Planet, lié à la fête de l'apprendre où on célèbre ses apprentissages. Et donc quel est votre plan pour l'année prochaine?
Quelle transition.
T'as vu un peu?
Ouais, c'est beau.
Je peux répondre politiquement? Parce qu'on n'apprend pas tous les jours finalement.
Entre ça et le truc Disney que t'as fait tout à l'heure, c'est beau.
Non, est-ce qu'on s'est fixé une techno
que,
là?
Tu vois, est-ce que tu as déjà repéré une formation ou un truc que tu as envie de faire quoi?
Alors, moi, j'ai parlé d'Airflow tout à l'heure. J'aimerais bien devenir une pépite en Airflow. Ouais. Et genre vraiment voir, connaître le bas-fond du Airflow.
Ah ouais, tu vas aller deep dive dans Airflow.
Parce que ça t'intéresse? Parce que c'est recherché? Parce que
d'une, ça m'intéresse. De deux, je le vois très régulièrement demandé par les entreprises. Donc j'imagine que c'est pas pour rien. Et de 3, je pense que dans mon exercice, c'est quelque chose de bon à savoir.
Et pourquoi enfin, moi, je me dis, Airflow, c'est un service qui existe dans tous les clouds. Il est managé. En vrai, savoir le faire from scratch...
Est-ce qu'on peut juste... Alors, parce qu'il y a sans doute des personnes qui ne savent pas ce que c'est.
Ouais, un service managé...
Airflow, non?
Pour Airflow, c'est
non,
pas...
Non, je parlais de... Ouais, Airflow.
Ah, Airflow. Bah, Clément, explique, parce que moi, j'aurais pas... Enfin... Bah.
C'est un scheduler. Ouais.
Un peu plus.
En fait, oui. En gros, grosso modo, c'est un scheduler donc, qui va permettre de dire, par exemple, tel job doit être lancé à tel jour. Ça, c'est la vision un peu macro. Et après, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, en fait, c'est. On peut chaîner différentes étapes et dire, voilà, donc on va d'abord faire cette étape. Qui va, par exemple. Nous, par exemple, dans ma startup, on lance. Un cluster d'abord, ensuite on va aller télécharger le code qu'on veut lancer, et ensuite on va lancer le code, et à la fin, dès que le code est terminé, on va dire, bah, ok, il faut killer, enfin, du coup, supprimer le cluster.
Okay. Voilà.
Et donc, tout, par exemple, tous les jours, nous, on a des DAG, en fait, les DAG, du coup, c'est les chaînes d'étapes qui se lancent automatiquement et qui sont gérées par Airflow.
Voilà, et ce qui est aussi sympa, c'est que tu peux aussi prendre du recul et voir ce qui n'a pas fonctionné. Tu as pas mal de logs, de trucs hyper bien construits là-dessus. Et Airflow est lancé par Airbnb. Je sais pas pourquoi je le dis, mais.
Apparemment aussi, je crois que si tu as une étape qui a fail, tu peux repartir juste de cette étape-là plutôt que de relancer. Ouais,
tu peux demander de répéter l'étape plusieurs fois.
Si tu as un modèle qui met 15 jours à s'entraîner, tu n'as pas envie de le réentraîner s'il y a eu une petite erreur à la fin.
Il y a plein de connecteurs aussi.
Il y a plein de Slack, email, ouais, carrément.
Même base de données, enfin il y a plein de... Non, c'est assez, assez puissant.
C'est donc, beaucoup de... Maxime, toi, t'as déjà pratiqué?
Oui.
Amy aussi?
Airflow?
Ouais.
Non. Ouais. Non, moi j'utilise plutôt les services managés quand ils existent.
Chez Azure?
Bah, Azure, GCP, bah justement. Moi, ma techno, c'est Terraform. Et du coup, les clouds, je les fais tous en même temps, tu vois. Même Alibaba, si tu veux.
Ouf. Donc toi Airflow, vous deux, Maxime et Rémi, vous avez des velléités?
Là en ce moment je mets le nez dans Neo4j, donc du coup j'en profite pour un peu voir comment ça fonctionne, etc. Donc c'est assez intéressant. Du coup ça c'est plus, en tout cas pour le travail. Après j'ai un projet perso qui est en cours, donc j'aimerais bien un peu le terminer, où je touche un peu à tout, à la fois du dev web et à la fois un peu de data. Sinon, j'ai pas de techno là qui me viennent en particulier. Donc, ouais, voilà.
Moi, j'ai une petite liste de courses.
Vas-y.
Après, ça m'engage, tu vois, les résolutions, mais bon. j'ai dit Terraform déjà. Donc, Terraform, c'est un outil qui te permet de faire du multi-cloud. Donc, en gros, tu as un petit fichier, dedans, tu définis tes ressources et ça te fait un plan. Et tu peux, par exemple, popper une machine App Engine sur Google qui est liée avec, je sais pas comment ça s'appelle sur AWS, le Compute Engine, l'équivalent, c'est EC2, non ?
Ouais.
Qui est lié avec un EC2, tu peux faire ta liaison entre les deux. Tu peux, par exemple, si tu veux déployer, un projet en Chine, tu peux faire un Terraform avec du AliCloud dedans. Et même avec des machines que tu possèdes aussi. C'est pas forcément cloud. Donc ça, ce serait peut-être mon premier, un peu avoir un peu des insights là-dessus, être plus que novice. Et sinon, j'aimerais bien deep dive un peu sur le côté web. Donc du Node, j'aimerais bien maîtriser un peu plus Node, voire maîtriser tout court. Node.js.
Ok, côté back du coup.
Ouais, et côté front, nous on a pas mal d'applis en React, j'aimerais bien aussi me former sur React, sur Django aussi. Donc du Django, c'est du back en Python. Et ouais, la liste elle est longue.
C'est pas grave.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Un petit Kubernetes.
Parce que j'ai pensé... Kubernetes, oui, moi aussi.
Kubernetes.
Carrément.
Ouais.
Ouais, ouais, ça peut être... ouais, ça peut être sympa.
Ou Kubeflow pour plus orienter data.
Mais Kubernetes, c'est pareil, je me dis c'est hyper compliqué. Enfin, ça me paraît compliqué, j'en sais rien si c'est compliqué ou pas.
Oui.
Ça me paraît compliqué et je me dis en vrai, dans toutes les cloud providers, tu as des trucs sur étagère qui te font du Kubernetes managé. Et donc, je me demande s'il y a un vrai intérêt à savoir le faire from scratch. Ou juste comprendre le principe et l'utiliser sur étagère.
Bon, déjà, comprendre le principe, c'est pas...
Comprendre le principe, c'est pas facile, mais... Perso, je pense que si je fais du Kubernetes, j'irai pas jusqu'à setuper mon propre... C'est quoi ? C'est un cluster ?
Ouais.
Ouais.
De toute façon, c'est ultra lourd
à mettre en place. Je prendrais le truc managé de Google ou de Azure ou de AWS ou de Alibaba. Ou de...
Encore un autre ?
Comment ils s'appellent les Français ? Mince.
OVH.
OVH. Ah. Je sais pas si on a un manager chez OVH, mais.
Je sais pas.
Je mettrais. Ouais, je suis pas sûr.
Et toi, Jean-Marc ?
Alors, moi. Je vais refaire une passe sur Spark, parce que j'en ai pas fait depuis Télécom. Enfin, un tout petit peu. Et je pense que ça pourrait me servir. D'autant que je crois qu'il n'y a pas la V3 qui va sortir ou...
Si, mais je crois qu'elle est déjà en bêta ou un truc comme ça.
Ouais, donc c'est l'occasion de se faire une piqûre de rappel.
Tu vas faire en Python ou en Scala ?
En Python.
Oh non.
Bah ouais, je sais, mais j'ai pas le temps de me plonger dans, de replonger dans Scala.
En vrai, ça change rien, tu fais du Spark. Donc ouais.
Et puis, j'ai pas les exigences, que ça soit personnel ou métier, qui imposent de passer par du Scala. Donc. Je pense que je vais regarder un petit peu aussi dans tout ce qui est machine learning embarqué. Donc tu sais, faire du TensorFlow.js, et puis j'ai vu qu'il y avait des trucs, il me semble même qu'il n'y a pas l'équivalent d'un Raspberry Pi avec une puce qui permet de déporter ça. Donc je pense que c'est une tendance qui va venir, et donc j'ai envie d'aller voir là-dedans. Si j'ai un peu le courage, je me referai un... Je recreuserai aussi dans tout ce qui est renforcement parce qu'on n'a pas fait depuis Télécom et que ça manque à ma panoplie en fait.
Voilà. T'es le seul à avoir mis des algos.
C'est vrai qu'on est très tech nous.
Bah ouais, je sais. Mais,
c'est vrai que j'aimerais bien me refaire un peu deep. J'ai pas eu l'occasion d'en faire sur des vrais projets et j'ai l'impression d'avoir beaucoup perdu là-dessus.
Carrément.
Et Spark, moi j'ai fait une formation l'année dernière et je l'ai pas utilisé. En fait, je me demande si... bon, peut-être je vais dire une connerie encore, ce ne serait pas la première. Mais je me demande si c'est toujours aussi à la mode qu'avant. Parce que maintenant, tu as des outils genre Dask, qui fait un peu la même chose. Non, il ne fait pas la même chose. Dask, il va... Non, dans le sens où si tu as besoin de paralyser un truc...
Tu te donnes un petit dataset pour tester ou...
Si tu as besoin de paralyser un truc rapido,
oui.
Tu fais du Dask, oui. Ça paralyse sur tes CPU.
Oui.
Et ça peut déjà bien t'aider au final et t'éviter de faire un cluster Spark... parce que en gros, Spark, c'est bien si tu as un data engineer derrière toi. Quoi. Ou si tu es capable de setuper un cluster toi-même. Ou d'utiliser un truc managé, encore une fois.
Chose que tu aimes bien faire. Donc oui. Vas-y, fonce.
Bah ouais, mais j'ai pas eu de besoin, en fait. Peut-être qu'un jour, j'en ferai. Hein. Mais j'ai pas eu de besoin. Mais c'est sympa. Enfin, très MapReduce, c'est tout. Tu reviens aux bases. Quoi.
Bah, c'est toujours ça, en fait. C'est-à-dire que quand. Je connais mes limites cognitives, je sais que je peux pas absorber trop de trucs. Et ouais, il y a plein de trucs qui sortent, on en parle beaucoup. Ça sert à rien si je me sens encore fragile sur les trucs que j'ai pas vus depuis longtemps et que je sens que mes fondations elles sont pas propres, quoi. Donc je préfère aller solidifier un peu ça.
Moi, ce que je me dis, c'est qu'en vrai, si un jour j'ai besoin, et je pense qu'on est tous pareils sur ça, si un jour j'ai besoin de maîtriser cette techno-là, avec le background qu'on a, c'est pas si long, tu te potasses pendant une semaine des bouquins, ou pour un, que ce soit pour un algo ou pour un, je sais pas, un framework, un package, en une ou deux semaines, c'est réglé. Et c'est ça qui est plutôt cool. Je sais pas de fin à ma phrase.
Non, mais ça, les mecs qui développent tous ces outils-là, ils pensent un petit peu comme nous. Nous, on est un peu formatés, ce qui fait que c'est là où tu veux en venir. Au final, en deux semaines, on finit par se connecter. Ouais, parce qu'on parle un peu le même langage, quoi, ouais, qu'il arrive. Peu importe le framework utilisé ou le langage Python, C++, on fout. Tu vois. Ça, c'est cool. C'est une espèce de communauté qui utilise des mots différents, mais à la fin, on se comprend. Quoi.
Faut lire la doc.
Faut lire la doc. Je viens de faire une phrase Disney ou pas, là?
C'était pas loin. C'était limite.
C'était pas loin.
C'était limite.
Ouais, je me suis senti limite.
C'est une communauté et on s'entraide. Et tout. Wow.
Ah ouais.
C'est un peu le monde des bisounours. C'était ouf.
C'est le côté corporate, non? Il n'y a pas une culture corporate vachement forte dans ta boîte qui fait que ce côté dynamique, positive, permanente. Et
pourquoi ce ne serait pas moi, tout simplement? Je suis quelqu'un de positif. Non, je crois qu'on a une culture corporate assez classique, comme dans toutes les entreprises. Pas plus que d'habitude, on ne doit pas arriver avec des arcs-en-ciel dans les yeux.
C'est pour ça qu'il est venu en blouse blanche.
À toi, j'ai remarqué que tu étais formaté NASA. Hein.
Ouais,
pull, j'ai l'impression que tu envoies des signes. Eh oh, je suis dispo.
Alors, je n'ai pas fait exprès, pour le coup. Enfin, si, j'ai choisi mon pull quand même ce matin. Mais en gros, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois le Head of IT de L'Oréal, j'ai toujours un pull NASA. Et sans faire exprès. Du coup, il doit me reconnaître comme étant le gars. Lui, c'est le gars de la NASA. Mais je fais même pas exprès, tu vois.
J'ai entendu qu'il y a un premier astronaute, je vais faire de la pub, qui a téléconsulté.
Depuis la station ?
Depuis la station, ouais.
Incroyable.
Donc, c'était pas avec nous, ça aurait pu, bien sûr. C'était a priori avec des médecins de la NASA. Mais le gars a téléconsulté.
Et il fait comment quand il y a une prescription, du coup ? Il est obligé d'attendre le prochain ravitaillement ?
Là, il était vraiment dans le mal et tout. Ça, c'est heureusement que... Enfin, c'est une téléconsultation bien particulière, sans doute. C'est pas le classique qu'on voit tous les jours. Mais ça lui a sauvé la vie, pour le coup. Comme quoi ?
C'est beau.
C'est beau. Bah, Rémi, écoute, avec cette anecdote, n'hésite pas à te présenter là-bas.
Bah, écoute, ouais. La Floride m'attend.
Floride ou...
Bah, Cap Canaveral, ouais.
Bah, ils sont sinon, partout.
La partie Haïti, je veux dire.
Ah, peut-être c'est au Texas, du coup.
Ouais,
je sais pas. À Houston.
Vous avez des voyages ou des confs prévus aussi en 2020 ?
Ah bah, Rémi ?
Des confs prévus ? Non. Non, mais c'est... Enfin, je vais aller à des confs, mais laquelle, j'ai pas choisi. J'en avais trouvé une en Suède qui avait l'air sympa. C'était sur... Alors non, elle était en Suède l'année dernière et maintenant elle est en... Brésil, je crois. Ouais, elle est au Brésil.
Du Brésil.
En plus, on a beaucoup d'auditeurs au Brésil.
Ouais. 15%, 16%. Ouais. Je serai en live depuis le Brésil.
C'est beau.
Et c'est sur les systèmes de recommandation. C'est pas un sujet que je maîtrise plus que ça, mais ça peut être un challenge de m'y inscrire pour potasser un peu avant.
T'as besoin de ce sujet ou c'est par curiosité ?
Bah, les deux. Hein. Enfin, moi, je suis dans une boîte où on utilise tous les genres d'algo, donc... On a des projets avec des systèmes de recommandation. L'état de l'art, il est assez sympa parce qu'il y a aussi du reinforcement learning.
Ou apprentissage par renforcement, ça existe.
Ouais,
aussi.
C'est vrai que je vais trop aller dans l'anglais alors que je maîtrise
Baptiste,
ça.
Si tu nous entends.
Et donc il y a celle-là. Il y a le NIPS, ça pourrait être sympa. Le NeurIPS,
c'est où maintenant ? Et c'est où cette année ?
Je sais pas, l'année dernière c'était à Vancouver. Ouais. Et il paraît que c'est pas si galère d'avoir des places au final.
Attends, L'Oréal, ils peuvent t'y envoyer ?
Bah ouais, j'ai mon collègue qui... Enfin, pas mal de mes collègues qui sont allés en décembre. Bon, je crois que je suis le seul à ne pas y être allé, d'ailleurs.
Pose-toi la bonne question.
Ouais, je me l'ai pas.
C'est un appel au RH de L'Oréal.
T'es ouf.
Enfin, ouais, la liste peut être très longue, la liste de conf. Faudrait que je me penche réellement là-dessus.
Je vais essayer de me motiver à faire un peu plus de meet-up que l'année dernière, je pense. Parce que l'année dernière, j'avoue que j'en avais fait un peu moins, du coup... pour ajouter ça
à tes résolutions.
C'est ça, exactement. Donc, pourquoi pas.
Ouais, même lancé que Maxime, moi, j'ai eu une grosse baisse de meet-up l'année dernière, donc je vais faire pareil. Ouais, pareil. Après, pour tout ce qui est conférence, moi, je suis pas du tout dans une boîte orientée data, ce qui fait que j'ai pas forcément les retours de ce qui se fait et ou ce qui devrait se faire. Je suis à l'écoute, mais c'est pas du tout dans mes priorités. Les meet-up, j'avoue que c'est quelque chose d'un peu plus friendly, assez... Ça, on est assez proche des gens en général. C'est pas les grosses salles de conf.
Ça me plaît bien. Qui sont pas mal, celles qui sont pas orientées recherche. Genre Stratadata par exemple. C'est pas mal parce qu'ils te présentent. T'as plein de boîtes qui viennent, genre t'as AWS, Google, etc. Ils présentent leurs nouveautés. Et t'as même. Enfin, c'est très business du coup, mais il y a aussi des trucs un peu plus deep dive dans les technos.
Deep dive.
C'est deux fois. Hein.
C'est deux fois.
Type,
ça vient.
L'autre jour, il y avait le concurrent de Kafka, je sais plus comment il s'appelle, peut-être que Maxime.
Le concurrent de Kafka.
Bah, le truc qui fait la même chose, mais en mieux.
PubSub.
PubSub, c'est chez Google.
Ouais.
Mais je crois qu'il y a un autre truc open source. Bon, j'ai oublié le nom.
Redis.
Ça, c'est chez AWS, non?
Bah, non, Redis, c'est. En fait, c'est une base de données, mais tu peux t'en servir aussi comme.
Ok, non, c'est
un. Ah, mais sinon, c'est peut-être la société qui est derrière Kafka. Confluent.
Non, c'est un autre outil, c'est en gros un Kafka un peu plus rapide. Et typiquement, ils présentent aussi leur truc. Donc il y a aussi de l'open source et tout, et ça peut être pas mal plutôt qu'un truc très recherche. Et toi, Jean-Marc, tu as des trucs prévus?
L'année dernière, j'avais fait la Data Science Summer School à Polytechnique, au mois de juin. Et c'était bien, parce que c'était un... blindé de chercheurs, doctorants, etc. Donc c'était très maths, avec des confs et puis deux journées de workshop. Et c'était bien parce que ça te remet en place, quoi. Ouais. Ça te permet d'aller dans des trucs où, au bout d'une heure, tu vois que plus de la moitié de la salle est complètement larguée, dont toi, d'ailleurs, tu vois. Mais les sujets sont vachement intéressants, les intervenants sont pertinents, et je pense que c'est dans le domaine... Si tu veux un truc qui s'étale sur plusieurs jours et qui en France et qui te permet d'avoir un pseudo état de l'art dans pas mal de sujets machine learning, c'est la meilleure option, quoi. Donc je pense que je vais le refaire cette année. Je sais qu'il y a, il y a une conférence IA et éducation, un truc qui existe depuis 20 ans maintenant. L'année dernière c'était à Chicago et cette année je crois que c'est au Maroc, donc j'irai peut-être parce que ça est, c'est dans les sujets sur lesquels je travaille. Fin mars, je vais aller à une journée présentation des dernières nouveautés sur Neo4j parce que c'est aussi les bases de données sur lesquelles je travaille. Donc même si à mon avis c'est orienté pas mal présentation et commercial, ça peut être bien parce que ça permet de rencontrer des gens et d'avoir quelques experts avec qui tu discutes. C'est tout ce que j'ai sur le radar pour le moment, donc voilà.
Et mais t'as envie de faire mieux que l'année d'avant, t'as envie de... Quel est ton état d'esprit sur tout ce qui est conf, recherche, état de l'art, façon de... C'est un métier dans lequel on est évidemment amené à progresser, j'imagine lire, voir les autres, voir ce que font les autres. Qu'est-ce que tu penses de ton activité?
Je suis rassuré parce que...
Le psy.
De ouf. N'hésite pas à t'asseoir.
Je suis rassuré parce que c'est... Plus j'avance dans ces trucs-là, et plus je me rends compte que j'en sais très peu. Ce qui est plutôt bon signe, généralement.
Ça, c'est une loi. Bon,
c'est Einstein qui disait ça, non?
Je crois, ouais.
Je sais pas. Mais voilà, l'idée, c'est
très
que
bon,
je savais... Je suis dans la bonne partie de la courbe, et déjà, il y a plein de... Enfin, les domaines, ils explosent. Que ça soit en techno ou même en algo, ça part dans tous les sens.
Ça va vite.
Donc, c'est impossible de tout suivre. Et même dans ce que j'arrive à suivre...
C'est un peu frustrant, je crois.
Ouais, mais je compose avec, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, tu sens que ça va beaucoup plus vite et que tu pourras pas tout absorber. Et tu te rends compte que finalement, tu sais très très peu de choses. Mais pour autant, bah, tu te rends compte que ce que tu sais, en gros, tu peux être reconnu et compétent déjà pour le micro-truc que tu connais, quoi. Tellement c'est vaste. Donc, non, j'ai pas... Je vais poursuivre sur la lancée et je vais pas...
Moi, j'ai une remarque sur ça, si tu veux. Ça peut lancer un petit débat. Moi, ça fait 2 jours ou 3 jours d'affilée qu'à chaque fois, je rencontre quelqu'un chez L'Oréal. Il me fait « Ouais, mais ton métier, il va disparaître. Data scientist et tout. » Même Google, apparemment, ils disent... Enfin, surtout Google, en fait, parce qu'ils ont un outil à vendre qui s'appelle AutoML. Du coup, ils ont tout intérêt à dire que notre métier va disparaître en tant que data scientist.
Mais vous n'êtes pas ML engineer ?
Non, c'est... Bah, c'est pour ça que je dis que je suis ML engineer, ah. C'est pour garder mon job en fait. Et du coup, ouais, AutoML, c'est un, en gros, un... je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas si vous, vous l'avez déjà fait, mais en gros, c'est un outil qui va tester peut-être tous les modèles possibles et te retourner le meilleur métamodèle qui va marcher le mieux pour ton cas. Donc en gros, il n'y a plus besoin de data scientist avec cet outil apparemment. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Marc ?
Mais il faut un gros chéquier, du coup, non ?
Non, je crois pas.
Bah, ça coûte quand même moins cher qu'un data scientist à la fin, quoi.
Moi, j'en pense que c'est tout con, hein. Dans le cadre du projet sur lequel je travaille, on fait des... Donc, on va dire qu'on fait des... On développe une plateforme qui est spécifique à une langue. Et donc, on avait fait l'anglais et le français. Et là, en ce moment, on est en train de faire l'espagnol. Et pour essayer de structurer et de documenter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, bah, je me suis imposé de faire comment on fait pour lancer une nouvelle langue dans notre framework. Et j'ai listé toutes les étapes. Et maintenant, toutes ces étapes, déjà, il y a plusieurs étapes où c'est effectivement de l'entraînement de modèles. Mais il y a aussi beaucoup d'étapes de construction de bases de données, de cleaning de bases de données, de jointure et des trucs qui, sont, qui font vraiment appel à des technos et à des langages différents. Et tu réalises que ça, c'est une bonne partie du taf, ça prend du temps, lancer une nouvelle langue. Et AutoML, c'est une portion minime de tout ce pipeline, quoi. Donc je ne suis pas inquiet.
Aujourd'hui, mais moi je me rends compte qu'il y a un moment où ils vont réussir à cleaner comme nous on le fait.
Bah,
je ne le dis pas en...
Moi j'ai un exemple fataliste, tout bête.
C'est comme ça, je pense. Notre métier va évoluer, il ne sera pas le même.
Je crois que depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais fait un projet où les données étaient supervisées.
Ouais, clairement.
Et labelliser les données, c'est tout le temps le truc le plus chiant, personne ne le fait. En général, à la fin, c'est toi, tu te réserves 3-4 jours pour le faire et c'est hyper abrutissant.
Chronophage, tout ce que tu veux.
Mm. Et du coup, AutoML, je pense que ça marche très bien sur les données labellisées. Peut-être qu'il y a un truc non supervisé, je sais pas. Mais au final, je pense que ça marche très bien si les données elles sont hyper dans un frame. Et en fait, moi, j'ai jamais eu ce cas, je crois. Depuis... Enfin, dans la vraie vie, ça marche pas, comme... pas forcément comme ça.
Non, mais est-ce qu'on répond pas nous-mêmes avec un biais ? Est-ce que le radiologue se dit pas la même chose ? Est-ce que le dermato se dit pas exactement la même chose ? Moi, je pense qu'à un moment, ils vont y arriver. Ils vont arriver à nettoyer la donnée, à faire une pseudo-labellisation qui serait identique, voire meilleure à la nôtre. Nous, on s'est fait une raclette la dernière fois avec un ami qui est data scientist et qui nous disait finalement...
Tu as beaucoup d'amis data scientist, donc c'est ça ?
Oui, mais en fait, que vous connaissez aussi, je peux le citer, il s'appelle Rémi, très beau prénom. C'est Rémi Sanchez. Et en fait, il nous expliquait que finalement, il avait des grosses problématiques de labellisation et que l'humain n'était jamais d'accord, certains humains n'étaient pas d'accord entre eux. Ça reste de la pseudo-labellisation qui nous dit que finalement, un algorithme un jour ne sera pas capable de faire aussi bien, voire mieux, sur de la pseudo-labellisation.
T'as des champs de recherche, en fait, actuellement là-dessus, justement.
Ouais.
On a eu l'occasion, je vais le développer peut-être un peu après, mais on a eu l'occasion de travailler sur de la classification extrême avec Maxime ces dernières semaines. Et quand tu regardes justement dans ce domaine-là, il y a des... J'ai lu des trucs de 2018, donc c'est pas si vieux, où ils cherchent à savoir comment tu peux faire de la... En fait, faire de la pseudo-labellisation ou réduire en fait la labellisation qui est faite automatiquement. Parce que tu te heurtes à des trucs où les corpus sont trop peu précis pour faire du supervisé.
Ouais.
Et donc, tu es obligé de trouver des astuces. Et pour le coup, là, c'est des recherches en algo et en maths qui vont permettre de, éventuellement de construire les outils qui pourront faire cette pseudo-labellisation. Mais ça sera de la pseudo-labellisation.
C'est du semi-supervisé, du coup.
C'est par exemple, oui.
OK.
En fait, je pense qu'il faut assembler... Si tu veux, ce qu'il y a, c'est que les algos d'apprentissage supervisé, on va dire classique et traditionnel, et le non-supervisé traditionnel, effectivement, ça peut être automatisé. Via des outils type AutoML. Par contre, tout ce qui est encore semi-supervisé, renforcement, et tout ce qui fait appel à la constitution de ton pipeline, ça, il y a encore du chemin à faire. Donc, les choses qui sont... en fait, les premières briques que tu apprends quand tu fais du machine learning, ça va devenir effectivement accessible et de plus en plus facile, et ça va nous faciliter la vie aussi. Mais tout le reste, je pense que il n'y a pas de souci à se faire, quoi.
Ok. Moi, mon idée, c'est que la partie en tout cas data cleaning sur laquelle on se vend aussi pas mal, tu vois, parce qu'on vend notre capacité à utiliser Python ou Scala ou autre, va être amenée à disparaître.
Est-ce que tu mets le feature engineering dans le data cleaning aussi?
Ouais.
Pour le coup, moi, les features que je crée, parfois, c'est... Alors, très souvent, c'est avec le business. Et ça, je suis pas certain que tu puisses l'automatiser aujourd'hui.
Non, je dis pas l'automatiser, mais je dis qu'il y aura pas besoin d'avoir une compétence technique et algorithmique et un langage hyper bien su pour, comme le Python, pour le faire. Je pense que limite le mec du business pourra se dire ah mais j'aimerais bien ressortir ça à partir de ce texte. Tu vois. Je pense qu'on n'y est pas tout de suite, mais je suis persuadé que le data cleaning et featuring, je vois les data IQ, les machins, ils font déjà des trucs incroyables.
Ouais, non.
Bientôt, ils auront tout fait.
Ouais, c'est déjà le cas un peu, en fait. Enfin, ouais, pas sur cette partie-là, mais en tout cas, même la partie algo et tout ça. Par exemple, data IQ, tu peux juste aller au clic bouton, je crois, faire ton algo, non, si tu as des données à tu peu près.
Aussi,
Enfin, du coup,
ouais, on
tend vers là, quoi.
Moi, toutes les problématiques et les sujets sur lesquels je travaille, c'est pas faisable de faire ça comme ça.
Mais après, tu fais des sujets assez complexes.
Bah, j'ai pas l'impression, enfin...
Moi, je pense qu'en moyenne, tu fais des sujets plus complexes que la moyenne des sujets.
Alors, il faut que tu travailles le français,
c'est...
peut-être, parce que...
Non,
tu...
non, c'est hyper clair.
C'est français.
C'est français, c'est français.
Tes sujets moyens sont au-dessus complexes. De la moyenne des sujets globales. C'est français.
Pas le global, mais ouais.
Quand je dis global, c'est... C'est tout le monde.